Donc, tout de suite, professeur Marie-Odile Krebs, qui est chef du service hospitalo-universitaire à Sainte-Anne, juste à côté. Vous avez traversé la rue, quoi.
On est juste le bâtiment en face. Bonjour et merci beaucoup de donner l'occasion, effectivement, à nouveau, vous avez présenté un petit peu il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. Et en fait, probablement que mon discours s'est modifié depuis, chemin faisant et surtout essayant de moi-même d'œuvrer dans le sens de l'installation d'un dispositif de détection précoce. Alors, je suis absolument désolée parce que manifestement, il y a un gros bug qui perturbe un peu mon attention d'ailleurs sur mon ordinateur. Et là, les polices de caractère a complètement changé, donc je pense que ça va être un peu désorganisé. Mais à la base, c'était bien. Je vais essayer de lire ce qui devient plus très lisible. Alors oui, quand on parle d'intervention précoce, il y a un certain nombre de notions clés à avoir en tête. Je vais effectivement redonner les chiffres de l'investissement, 1 euro investi dans l'intervention précoce et de la prise en charge précoce de la psychose, économise 14 ou 15 selon le marqueur. En tout cas, ce sont des maladies sévères, extrêmement coûteuses à la société et surtout, alors je vais essayer de trouver le... Voilà.
Est-ce que vous entendez correctement ? Non, c'est ça, c'est ce qui
me
semblait.
Il ne faut pas que je tourne. Alors, c'est bien compliqué pour montrer. C'est l'exercice.
Il faut tourner carrément le...
Ah oui, je vais tourner.
Voilà. Par contre, il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà.
Merci. Oui, ce sera plus simple pour moi. Et avec un élément majeur, c'est pas seulement que ce sont des maladies qui nécessitent des soins, mais c'est aussi une maladie qui touche très tôt, entre 15 et 25. Ce petit triangle-là, c'est la santé mentale. Et les autres couleurs, c'est les autres phénomènes de santé. Et vous voyez qu'entre 15 et 25 ans, le problème majeur des jeunes, ce sont les problèmes de santé mentale. Et lorsqu'on impacte à ce niveau-là, évidemment, toute la vie, on peut en avoir les conséquences. En tout cas, l'objectif, entre autres, c'est d'essayer de limiter au maximum les conséquences. Une deuxième notion clé, c'est celle de l'adolescence cérébrale, justement, parce que cette période de 15-25 ans est une période où le cerveau finit sa maturation. C'est une période développementale aussi importante que le développement du fœtus avant la naissance. On connaît beaucoup moins de choses, puisque c'est un domaine auquel les spécialistes du développement, les neuroscientistes, se sont intéressés que relativement récemment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, tout est remanié, le nombre de synapses, l'épaisseur de la substance grise, le complément de la myélinisation, etc., etc. Et donc, un impact qui va perturber même de façon mineure le développement va avoir une sorte de cicatrice qui va pouvoir se révéler plus tard dans la vie. D'où l'importance de cette période cruciale pour nous en termes de santé mentale. La troisième notion clé, c'est qu'on va abandonner, enfin ce que propose ce champ de travail, c'est d'abandonner, ou en tout cas de ne pas uniquement raisonner en termes de catégorie diagnostique, mais d'avoir en tête cette notion de stade clinique, comme ça a été fait dans le cadre du diabète, du cancer, etc. On parle de pré-diabète et de diabète, on parle de cancer in situ ou de cancer grade 2, 3, 4. On va raisonner en stade clinique pour pouvoir adapter la prise en charge, les moyens mis en œuvre, etc. Et puis une dernière notion qui rejoint celle-ci, c'est qu'on s'aperçoit qu'avant la psychose, il existe déjà des déficits, il existe souvent déjà des déficits qui peuvent être pris en charge et qui peuvent modifier le cours des choses. Globalement, le champ ce champ cherche à mettre en œuvre sur le plan des soins et éventuellement sur le plan médicamenteux, enfin scientifique, de viser à trouver la manière de modifier le cours des choses pour éviter ou au moins limiter la chronicité des troubles qu'on va observer. Alors ce qu'on veut, j'avais mis notre ami Créplin là-haut, avec l'image assez dramatique hein, qui est celle véhiculée lorsqu'on prononce le mot de schizophrénie, clairement, on cherche à se détourner de cette forme. Si on veut résumer, ce qu'on nous a appris comme tableau de la schizophrénie, c'est la forme la plus évoluée, la plus tardive de la maladie. C'est le stade 4. Alors, tout est venu de ces études, notamment de l'étude ABC, l'étude premier épisode, qui a permis de montrer de façon rétrospective chez un ensemble de patients vus lors d'une première hospitalisation pour schizophrénie, le fait qu'il existait des symptômes. Quel type de symptômes ? Ben, des symptômes qui sont parfois très banaux, comme le syndrome de l'anxiété, de l'inquiétude, une humeur dépressive, manque d'énergie, des troubles de concentration, des troubles de l'appétit, et puis des symptômes qui ressemblent un peu plus à des symptômes atténués, comme les suspicions, idées de référence, symptômes négatifs, etc. Ces symptômes sont présents, c'est ce qu'on appelle lorsque les patients ont développé la maladie, des symptômes prodromiques. Et c'est cette phase prodromique est présente chez 3/4 des patients, donc pas chez 100% des patients. En tout cas, ils n'ont pas noté chez 100% des patients rétrospectivement. La durée de cette période, c'est 5 ans. Donc, en théorie, on se dit qu'on pourrait intervenir si on savait les repérer. Et ce qui est plus inquiétant, c'est la durée de psychose non traitée. Dans ces études-là, la durée de psychose non traitée, cette fois-ci, on ne parle pas de prodrome, on parle d'un état qui, s'il voyait un psychiatre lambda, ferait le diagnostic d'épisode psychotique. Le tableau complet est là, et on s'aperçoit que la durée, le retard finalement à la prise en charge et à la mise en place d'une stratégie thérapeutique est d'environ 1 à 2 ans. Malheureusement, les chiffres sont à peu près les mêmes en France aujourd'hui, y compris en plein Paris. Ce qui est préoccupant. Alors pourquoi il faut intervenir précocement? Et c'est toute la motivation de ce domaine. C'est pour ça que ce serait rentable, entre guillemets. Un retard à la prise en charge augmente le risque de suicide, de dépression, de passage à l'acte, augmente le risque de consommation de toxiques et les risques suicidaires, etc. Et aggrave les troubles cognitifs. Ça a clairement été démontré. Il y a eu des atermoiements, mais globalement, le retard à la prise en charge est associé à ça. C'est aussi associé à une certaine toxicité sociale, c'est-à-dire que ça s'accompagne d'une rupture familiale, affective, ça risque d'interrompre les études, la scolarité, le licenciement, peut entraîner éventuellement des complications et des troubles du comportement assez sévères qui entraînent parfois des sanctions pénales. Et enfin, sur le plan médical, on observe que il y a une moins bonne réponse au traitement. Plus on attend, moins la réponse est bonne. Plus les rémissions sont lentes et moins elles sont complètes. D'autre part, il y a une moins bonne adhésion au traitement et plus de rechutes parce qu'on est déjà rentré dans une situation où le sujet a des difficultés à reconnaître ses troubles. Alors, il n'est pas inutile de préciser ce qu'on entend par psychose débutante parce qu'il n'y a en fait pas une définition unique, mais globalement, il s'agit de parler ici d'un premier épisode et de sa rémission, donc jusqu'à la première rechute, on essaye qu'il n'y en ait pas, justement, et puis la période prodromique. Donc c'est en gros 2 ans avant, 2 ans après un premier épisode. Elle se distingue en tout cas de la phase chronique ou de la phase récurrente de la maladie, et elle se distingue aussi de la phase de vulnérabilité classiquement asymptomatique. Les sujets vulnérables, c'est par exemple des enfants de parents souffrant de schizophrénie. On sait qu'ils ont une vulnérabilité théorique génétique. Ce n'est pas du 100%, bien évidemment, mais on considère qu'ils font partie des personnes vulnérables. Lorsqu'on parle d'intervention précoce, on est non pas dans des personnes qui sont seulement vulnérables, on est devant des personnes qui ont déjà des symptômes et qui sont déjà souvent en demande d'aide, soit parce qu'ils fonctionnent moins bien, soit parce qu'ils ont du mal à se concentrer, soit parce qu'ils sont anxieux, déprimés, etc. Donc on est déjà dans des soins. Alors ça, c'est la représentation actuelle de comment on arrive à la maladie, etc. Je vais aller vite, c'est juste pour représenter cette image-là, c'est-à-dire que nos systèmes de soins sont globalement très bien faits il y a toujours à améliorer, hein, je pondère, mais en tout cas, relativement bien fait pour s'occuper de cette période-là de la maladie, c'est-à-dire les phases récurrentes, chroniques, la phase où la maladie est effectivement établie. Et là, le domaine qu'on considère, c'est la période qui est juste avant. Donc pour être tout à fait honnête, plutôt encore un peu plus avant. Et là, on va être dans une situation où on va avoir déjà des petits symptômes qui vont pouvoir apparaître. Là, c'est ce qui est représenté ici, c'est l'intensité des symptômes. On a déjà une difficulté de fonctionnement, mais on n'est pas dans un tableau constitué. Et toute la thématique, en tout cas au niveau scientifique, ça va être c'est absolument illisible, je suis quand même désolée. Ce qui a marqué là sur le pavé, là, c'est tout l'enjeu, ça va être de trouver est-ce qu'on peut identifier des facteurs protecteurs, puisqu'on sait que certains facteurs sont précipitants, et est-ce qu'on peut améliorer la neuroplasticité pour que, si jamais il y a effectivement des signes de souffrance, on puisse améliorer la capacité du cerveau à récupérer. Et les facteurs de précipitants qui sont identifiés aujourd'hui, c'est clairement les substances, et notamment le cannabis, le stress et probablement un certain nombre d'infections ainsi que des stress liés à l'isolement social. Alors, il existe. Pourquoi c'est un champ aussi différent en termes de réflexion sur les soins ? D'abord parce qu'il y a des particularités cliniques importantes à connaître. On ne va pas être dans un diagnostic clinique, ou si on fait un diagnostic, c'est un diagnostic ouvert et transitoire, comme nommé la psychose, ou un état avec des symptômes psychotiques, ou à ultra haut risque, ou un état mental à risque, c'est les termes qui sont utilisés. On a besoin de faire un bilan, parce que l'émergence d'un trouble psychotique peut être la manifestation d'une maladie. C'est environ 3% des premiers épisodes sont liés à des troubles organiques. Et puis, il y a des choix thérapeutiques spécifiques ou des modalités de traitement particulières. C'est aussi un âge, évidemment, qui correspond à un moment clé dans l'intégration sociale d'un individu. Et puis, il existe des spécificités dans l'organisation des soins, puisque 15-25 ans, ben, ce n'est pas 16 ans et ce n'est pas 18 ans. Et on est bien sûr à cheval entre la pédopsie et la psy adulte. Les enjeux pronostiques, on doit favoriser l'accès aux soins, limiter la durée de psychose non traitée. Ça a été le principal moteur de ce domaine médical. Il faut essayer d'améliorer l'alliance thérapeutique chez des personnes qui vont pas forcément avoir une perception très claire de leurs symptômes, puisqu'ils sont subtils, non plus la famille d'ailleurs. Et puis limiter les risques de complications, limiter l'évolution vers la chronicité. Les risques de complications, ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir, sur lesquelles on doit pouvoir agir sans pour autant être stigmatisant. Bon, je vais passer rapidement juste pour mentionner qu'on a des outils qui permettent de caractériser si le sujet est déjà à ultra haut risque ou s'il est déjà dans un premier épisode psychotique. C'est des échelles qui sont des échelles cliniques, qui sont simplement des guides d'entretien et qui sont en tout cas utiles pour essayer de doser, d'évaluer non seulement l'intensité des symptômes, mais leur fréquence. Et sur la base de ça, on peut catégoriser les choses. Le problème, c'est que ces symptômes sont souvent peu spécifiques. J'ai cité ceux qui avaient été retrouvés de façon rétrospective. Dans les études prospectives, on retrouve effectivement des catégories de symptômes très peu spécifiques, plutôt de l'ordre de l'anxiété, de l'humeur dépressive, des troubles de concentration ou de motivation, et ça, on en voit énormément. Et puis, des symptômes un peu plus tardifs, plus proches de l'émergence, si elle doit arriver, de la maladie, avec des comportements étranges, un discours vague, trop élaboré, circonstanciel, etc., donc des symptômes atténués. Mais le problème, c'est qu'évidemment, tous ces symptômes-là, on les rencontre, si on les cherche, chez des adolescents standards, c'est-à-dire que c'est extrêmement fréquent, et ce n'est pas complètement spécifique. Donc, comment s'en sortir ? On s'en sort entre autres par l'échelle que je vous ai montrée avant, c'est-à-dire que ça permet de donner quand même une certaine tentative de niveau de seuil. Mais la question de la spécificité, ce n'est pas le seul moteur pour décider qu'il va falloir agir. C'est un festival là-haut. Donc ce qui est marqué en haut, en double machin, c'est des stades plutôt que des catégories. Agir avant le diagnostic, on n'a pas besoin d'un diagnostic catégoriel pour commencer à faire des choses. Et puis, ce qui est représenté ici, c'est de nouveau les soins, ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est stade 4, stade 3, ce premier épisode, et encore quand il nous arrive. Phase résistante ou la phase de persistance. Là, on a des tableaux qui sont à peu près caractérisés. Lorsqu'on est dans les phases plus précoces, de facto, les symptômes, c'est pas qu'il faut savoir qu'on sait pas faire un diagnostic, c'est qu'on ne peut pas faire un diagnostic parce que les symptômes sont encore relativement mélangés et pas suffisamment spécifiques. Et le champ de l'intervention précoce, c'est ces deux phases-là. C'est pas la prévention en santé mentale, même s'il va falloir sortir de nos dispositifs pour pouvoir faciliter l'accès aux soins, mais c'est les personnes qui sont déjà en demande de soins, en demande d'aide, et puis jusqu'au premier épisode. Un modèle pluripotent, globalement, ceux qui répondent aux critères de ultra haut risque ont globalement un risque d'un tiers d'évoluer vers un trouble psychotique. Ils peuvent aussi évoluer vers d'autres pathologies, notamment des pathologies de type de troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, mais aussi simplement avoir des difficultés de fonctionnement sans forcément avoir un diagnostic complètement précis. Il faut retenir aussi qu'après un premier épisode psychotique, l'évolution n'est pas à 100% vers un premier trouble schizophrénique. Un premier épisode psychotique n'est pas nécessairement un premier épisode de schizophrénie, puisque ici, vous avez le pourcentage qui a été vu dans un dispositif de prise en charge, c'est Oasis à Londres, de premier épisode. En gros, quand même, toute cette partie-là, c'est schizoaffectif et schizophrénie. Mais vous avez encore une bonne partie avec des troubles de l'humeur ou des troubles liés aux toxiques ou des troubles psychotiques, bref. Donc, c'est pas parce que l'épisode psychotique est là, même quand il est franc et massif, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est déjà dans une maladie chronique qu'on appelle schizophrénie. Et donc, il faut garder cela en tête pour pouvoir adapter les soins et adapter ce qu'on dit aux patients. On va plutôt essayer de le mobiliser en lui disant « Il y a un risque que les choses évoluent vers une pathologie chronique. Il va falloir faire attention et agir sur tout ce qu'on peut agir, notamment la prise de toxiques, etc. etc. » Alors, il y a des critères et des recommandations internationales qui sont disponibles assez facilement sur Internet. À la fois, là, j'ai montré les australiennes et le travail fait par la NICE en collaboration avec les associations d'usagers qui sont assez claires et assez convergentes. Ce qu'on observe au niveau international, c'est que les centres qui mettent en place ça voient leur taux de transition réduire de 30% à 10%, donc d'un facteur 3. Ce qui est énorme. Alors, c'est pas seulement... Grosse discussion, évidemment. C'est pas seulement qu'ils les soignent et ils évitent beaucoup plus d'entrer dans les troubles, c'est aussi qu'ils ont un accès facilité pour des personnes qui sont peut-être un peu moins évoluées. Mais globalement, même lorsqu'ils prennent en compte ça, la sévérité à l'entrée de leur dispositif, ils voient une diminution du taux de transition chez les patients pris en charge. Les recommandations, globalement, je ne vais pas vous faire un cours de thérapeutique, mais c'est évidemment centré sur le patient. Ça ressemble dans un certain nombre de le cadre est relativement similaire, finalement, à ce qu'on préconise pour le rétablissement, les programmes de réhabilitation et de remédiation. C'est centré sur le patient, c'est une équipe qui va l'accompagner. Il faut avoir des groupes de psychoéducation spécifiques. Il ne s'agit pas d'aller leur raconter la schizophrénie évoluée lorsqu'ils ne sont pas encore dans ce stade-là, avec des prises en charge de type TCC individuel, l'entretien motivationnel. Tout ça sont des choses qu'on sait faire plus ou moins, pas tant que ça dans le domaine de la psychose, c'est des choses qu'il faut développer, qui existent et qui ont montré leur efficacité. Donc TCC, intervention familiale, psychoéducation des familles, la fameuse idée du case management qui accompagne le patient, et surtout des interventions dans le milieu. C'est surtout tourné vers l'ambulatoire. En termes de médicaments, il y a des règles effectivement qui sont non pas de frapper fort pour être sûr que ce soit efficace. Au contraire, c'est plutôt moins efficace et beaucoup plus toxique. Et la règle, c'est start low, go slow. Et puis, chez les sujets qui ne sont pas encore premier épisode, les antipsychotiques ne sont pas recommandés. Il ne s'agit pas de donner un traitement médicamenteux au moindre symptôme qu'on pourrait penser comme étant un symptôme annonciateur d'éventuellement une psychose derrière. Bon, ça, je vais passer rapidement. Chez les ultra-hauts risques, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas les antipsychotiques. Mais la prise en charge globale de la personne est la même. C'est pour ça qu'il y a une certaine convergence et rationnelle pour qu'on puisse s'imaginer des dispositifs qui vont s'occuper des de ceux qui présentent des symptômes qui pourraient être annonciateurs et de ceux qui sont juste dans un premier épisode. Il y a une convergence des moyens. Globalement, on recommande que des sujets qui sont donc à risque, un état mental à risque, ultra haut risque de transition psychotique, on les monitore pendant 3 ans, on va les suivre, on va agir sur tout ce sur quoi on peut agir. Mais il faut garder que un tiers seulement vont évoluer vers vont évoluer vers la maladie. Et il ne s'agit pas de les stigmatiser et de les sortir de leur milieu et de les couper des études, etc., et qu'ils se sentent à part. Il ne faut pas les surdéterminer vers ça. Alors, ça pose des questions vraiment très complexes aussi en termes d'accès aux soins et d'organisation des soins. On a fait sur la cohorte de 300 patients qu'on a vu dans ce cadre-là une étude qualitative et quantitative. Je ne vais pas vous décrire tout parce que c'est assez long, mais globalement, on voit bien qu'il y a des déterminants qui sont liés à la manière dont la personne perçoit ses propres troubles. Généralement, les types de réponses qu'on a pu avoir, c'est « Ah, mais de toute façon, c'est une épreuve, il faut que je m'en sorte tout seul parce que sinon ça prouve que je suis lâche ou je suis faible, etc. etc. » Il y a un rôle massif de l'entourage et du degré de stigmatisation véhiculé dans la société. Ça, c'est un gros, gros, gros problème. Et puis, il y a des déterminants liés au système de santé. L'accessibilité des soins, elle est importante, évidemment, mais c'est aussi la question de la collaboration des professionnels de santé. Ce qui est frappant dans cette cohorte, c'est que toutes les personnes qui sont venues jusqu'à nous ont vu un professionnel de santé, voire même de santé mentale, avant de nous voir, mais il n'y a pas forcément un programme continu et cohérent de soins qui a pu être mis en place. Donc, c'est la discontinuité des parcours qui est vraiment en cause. Juste pour dire, on a fait un sondage avec la Fondation Denis Kerr où on interrogeait donc, des adolescents lambda sur un certain nombre de questions qui sont des questions de symptômes psychotiques atténués. Vous voyez en rouge, vous ne voyez peut-être pas toutes les questions, mais vous voyez en rouge, c'est 3 à 4% ont répondu qu'ils percevaient chacun de ces symptômes souvent dans le dernier mois. Donc les symptômes psychotiques atténués, c'est ce qu'on trouve dans d'autres études internationales. À 10%, on ressent dans le mois précédent au moins un symptôme. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont tous psychotiques, mais ceux-là, on aimerait bien les monitorer, les évaluer correctement pour éventuellement les prendre en charge. Donc on pourrait, avec des questionnaires relativement simples, éventuellement aider à l'orientation de ces personnes. Et alors, qui vont voir les jeunes lorsqu'ils ont comme ça des difficultés? Ils se retournent vers la famille, vers les amis, et le premier professionnel, c'est le médecin traitant. Donc on voit bien que l'école est très très loin. On voit bien que dans cette tranche d'âge, alors c'est pas uniquement parisien, c'est une enquête qui a été, un sondage qui a été fait au niveau national, on voit bien que le médecin traitant, il va falloir l'inclure dans le parcours de soins. Et bien sûr, quand on se retourne, on a fait cette année, je ne sais plus si j'ai eu le temps de le mettre, voilà, on a fait cette année un sondage chez les généralistes pour voir est-ce qu'ils voyaient des jeunes entre 15 et 25 ans avec ces motifs-là, qui sont des motifs qui sont la traduction un petit peu de symptômes prodromiques, mais les moins spécifiques, bien sûr, fatigue, perte d'énergie, trouble anxieux, perte de motivation, etc. Et on voit bien que, vous avez les chiffres ici, de souvent ou très souvent, il y a quand même un certain nombre de symptômes. Donc, les généralistes voient ces patients-là. Puis on leur a posé la question de savoir à quoi ils pensaient. Est-ce qu'ils pensaient souvent ou pas très souvent ou systématiquement à de la dépression, à de l'addiction ou un trouble psychotique? Le peloton de tête, c'est qu'ils pensent d'abord à la dépression, et puis à l'addiction, puis enfin à la psychose. Donc les généralistes n'ont pas forcément ça en tête. Ce qui est rassurant, j'ai pas les chiffres ici, c'est que ceux qui avaient eu une formation un peu spécialisée dans le domaine de la santé mentale, y pensaient un peu plus, et donc on a un petit espoir que si on améliorait la formation, on aurait un meilleur taux de détection et donc un meilleur accès aux soins. Bon, et la France, alors ça c'est le genre d'image qu'on subit lorsqu'on va dans les congrès internationaux, présentation de l'étude de MacDead de la London School of Economics, et que la France est un peu en rouge, et c'est parce que nous n'avons pas déployé aujourd'hui un réseau de services d'intervention précoce, et il est grand temps qu'on s'organise. Qu'est-ce que c'est un centre d'intervention précoce? J'ai repris ici les recommandations qui sont, ça c'est celles qui viennent d'Australie. C'est bien sûr de pouvoir produire et proposer un ensemble de soins orienté vers les jeunes pour avoir des soins spécialisés dans le traitement de la psychose débutante, avec trois fonctions centrales. Bien sûr, de pouvoir agir sur des soins en aigu, parce qu'ils ne viennent pas toujours en consultation différée. Il ne s'agit pas de devoir leur faire attendre 6 mois pour avoir accès à une consultation. Ce ne serait pas logique. Il faut pouvoir avoir les outils de la détection précoce. Et puis, il faut aussi penser à tout l'aspect rétablissement, c'est-à-dire l'accompagnement, une fois qu'on les a avec nous. Ça, c'est les principales recommandations. Donc, il y a toute une liste. Il y a une partie qui est passée en bas, décidément. Mais on voit bien que c'est tout un ensemble. On ne peut pas réfléchir en disant, tiens, j'ai une équipe mobile, donc ça y est, j'ai un centre d'intervention précoce. On n'en a quasiment pas. Mais je travaille, je fais un programme d'intervention. Il faut vraiment réfléchir en termes de parcours et essayer d'agir sur les différentes composantes. Et en tout cas, ça, c'est vraiment un peu une checklist qu'on devrait avoir en tête pour la mise en place de ces programmes. Alors, rapidement, je ne sais pas où j'en suis du temps, 5 minutes, bon, je vais aller encore un peu plus vite. Donc on a commencé cette expérience-là ici, juste en face, avec des bilans extrêmement complets, extrêmement informatifs. Comme on a été financé par des programmes de recherche, on a fait un peu plus de recherche, mais on a progressivement réussi à mettre en place des prises en charge personnalisées en proposant progressivement un certain nombre de choses qui étaient dans la liste précédente. Intéressant, c'est que ça, c'est le diagramme de ceux qui arrivent et qui sont ultra-horistes. Donc, majoritairement, on cible bien, finalement, ils arrivent tout seuls, hein, cela dit, avec un petit site blog, essentiellement. Le groupe qui est déjà psychotique quand ils arrivent, et puis des sujets à non à risque, c'est-à-dire ils ne répondent pas aux critères de sujets à risque. Alors, est-ce que c'est de la dépense inutile de moyens? Bah, pas vraiment, parce que quand on regarde, ils ont tous un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Donc ils sont déjà quand même dans une catégorie. Alors c'est peut-être parce que nous sommes à côté, mais donc dans l'hôpital Sainte-Anne, et que d'aller à Sainte-Anne, les moins malades vont être pas tentés de passer une demi-journée avec nous, une journée avec nous. Alors, quelle perspective ? Je ne vais pas revenir sur... On les a déjà cités globalement sur les soins. Simplement, imaginez qu'il faut vraiment penser les choses en termes de stratégie pour stopper l'évolution et essayer de laisser que le sujet soit le plus maintenu dans son milieu pour ne pas rajouter des problèmes aux problèmes. C'est-à-dire si un jeune qui sort complètement du circuit scolaire, il va non seulement perdre en termes d'éducation, mais aussi perdre ses copains, etc., etc. Et on sait bien que sur le plan social, les patients qui gardent un lien fort avec la famille, gardent un lien fort avec leurs amis, ont un meilleur pronostic, mais aussi parce qu'ils sont portés par ça et que dès qu'ils vont pouvoir récupérer un peu, ils vont recommencer à avoir ces activités et qui vont les aider dans la vie. Donc on peut représenter ça sous cette forme-là avec un ensemble de soutien qui va du logement aux activités extérieures essentiellement. C'est pas les amener uniquement dans des activités thérapeutiques dans l'hôpital, c'est plutôt les accompagner pour qu'ils aillent en faire progressivement dans des associations et avec leurs copains. En pratique, je ne sais plus combien j'ai de diapos. En pratique, donc, la recommandation, c'est les services spécialisés avec un objectif qui est un objectif fonctionnel, pas uniquement sur le symptôme, avec un optimisme raisonné mais raisonnable. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucun risque, c'est rien, et pas du tout parler de diagnostic, mais il s'agit de pondérer le diagnostic avec un peu d'optimisme. Il ne s'agit pas de les plomber immédiatement, parce que si on ajoute de la dépression à l'annonce d'un diagnostic, ce n'est pas terrible. Il faut favoriser l'accès avec des équipes et la checklist. Et il faut avoir une équipe spécialisée, mais aussi indépendante, sinon elle se fait grignoter par les soins chez les patients chroniques, accessibles, mobiles. Et il faut éviter de mélanger psychose débutante avec des patients qui sont encore jeunes, mais déjà très malades, parce que ça pose aussi des problèmes, non seulement dans le type de soins qu'on leur propose, mais aussi dans la vision qu'on a et donc qu'on leur transmet. Je vais accélérer un petit peu, favoriser l'accès. J'ai dit un peu tout ça. Une chose peut-être quand même, parce qu'on représente toujours les choses entre des prodromes, premier épisode, schizophrénie, mais il faut avoir en tête plutôt ce schéma-là. Vous avez une population générale dans laquelle il y a quelques personnes qui ont des soins, qui ont des petits troubles, qui vont chercher à avoir des soins. Certains sont déjà malades, d'autres vont évoluer vers des choses beaucoup moins, qui ne sont pas des sujets à risque. Vous avez des patients à risque, et puis finalement, vous avez un petit groupe de patients qui va évoluer vers une maladie. En tout cas, quand on ouvre ce genre de système, il faut se poser la question de quelle est la population qui vient chez nous, comment je l'articule avec l'amont et l'aval. Les modèles, on va en reparler. Peut-être juste finir là-dessus, c'est la question, bien sûr, de comment on installe ça en France, dans la politique territoriale. Territoire, évidemment, il y a des avantages à ça, notamment tout le travail qui est fait avec les associations, les conseils locaux de santé mentale. Mais quelle est la taille ? Un secteur est trop petit, à la taille de 50 000 habitants, est trop petit pour un programme de premier épisode. Et donc, on est compte tenu de l'incidence annuelle. Et un secteur moyen va avoir entre 4 et 6 premiers épisodes par an. Donc, il ne va pas pouvoir faire des groupes, il ne va pas pouvoir construire vraiment une équipe spécialisée. Mais il faut certainement penser une structure suprasectorielle, territoriale, et bien sûr en accord aussi, en harmonisation avec des actions qui peuvent être faites avec le secteur. Il faut pouvoir partager tous ces modèles. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau national pour la prévention et l'intervention précoce. Tout ça, c'est les points où j'ai été faire des conférences ou des points où des personnes sont venues se former parce que dans l'objectif dans l'objectif de monter un dispositif spécifique. Donc c'est rassurant. On va commencer à pouvoir vraiment mailler la France avec de tels dispositifs. J'avais fait résumer les propositions en 10 propositions qu'on trouve dans le numéro de juin de santé mentale. Et on est en train d'essayer de mettre en place un projet plus recherche et soins psychiatres. On a ce réseau transition et un programme de diffusion de l'information avec la Fondation de Nicker. Voilà, c'est notre équipe. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser sur la qualité des diapos qui est catastrophique.